Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro spécial du Weekly News. C'est pas le dernier numéro officiel de l'année, le dernier numéro officiel ayant eu lieu la semaine dernière. C'est un petit bonus qu'on avait envie de vous faire qui revient sur l'ensemble de l'année 2014, news par news. Donc préparez-vous pour un podcast de 8h30. Alors, on plaisante évidemment, on a sélectionné quelques petites news qui nous ont marqué cette année. Une sorte de petit best-of de news de l'année, avec notamment des news qui nous ont plu, des news qui nous ont déplu, des choses marquantes. Et puis, bien sûr, nos attentes pour 2015, que nous réserve l'Actu Comics pour 2015. On vous a sélectionné le meilleur, évidemment, avec moi ce soir pour vous présenter toutes ces news, en tout cas pour revenir sur l'ensemble des news de cette année. Eh bien, nous avons Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Et Corwin.
Oui, bonjour à tout le monde et à tout le monde. Et joyeux Noël!
On va démarrer ces news un petit peu dans le désordre le plus total. On a, franchement, pour ma part, je n'ai rien préparé. Je sais que mes compères ont quand même pris quelques petites notes. Moi, j'y vais total à l'arrache. C'est le dernier podcast pour moi de cette année. Celui que vous aurez la semaine prochaine a été enregistré la veille, en fait.
Oui, parce que mindfuck.
Chez nous, c'est du mindfuck temporel et voilà, on fait des choses un peu à l'avance. Ça arrive des fois. Surtout, c'est le dernier podcast de l'année, donc j'y vais en mode total anarchie, quoi. Ça va être gros, n'importe quoi. Et
ouais, je vais vous laisser commencer, messieurs, du coup.
Donc, pas d'ordre de préférence, pas d'ordre de mois de, durant cette année. Voilà, comme ça vient.
Comme ça vient.
Alors, je vais commencer. Alors, du coup, on va prendre l'ordre des présentations. Alors, il y a une des premières news qui...
Attends, en fait, je suis en train de réfléchir. On n'avait pas dit qu'on voulait faire un petit WhatsApp ?
Si, mais tu l'as pas dit, donc...
Le petit dernier WhatsApp de l'année, le petit WhatsApp non officiel, c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, ce sera l'anarchie cette émission, donc c'est pas grave.
Ça y est, il commence déjà à foutre le bordel, tu vois ?
Ouais, ça y est, c'est clair.
Je trash ma propre émission, je suis un fou, moi.
Donc alors, on va parler du WhatsApp, et je vais commencer quand même, je vais prendre la parole. Et je vais vous parler d'une série que j'ai découvert récemment sur Netflix, c'est une série en 7 épisodes qui s'appelle Top of the Lake.
Mec, t'aurais dû venir dans l'émission de la semaine prochaine. Hein.
Voilà, je sais pas si vous en avez parlé.
Pas du tout.
Qui est une série qui s'est terminée, donc qui était réalisée par Jane Campion pour le premier épisode. Et qui comprend des acteurs comme Elizabeth Moss, qui est l'actrice principale qu'on a vue dans Mad Men. Et on a Peter Mullan et David Wenham, qui sont des acteurs qu'on a vus pas mal au cinéma, que ce soit dans pas mal de films anglais, surtout pour Peter Mullan. Et David Wenham, on l'a vu dans Le Seigneur des Anneaux, la première trilogie. Il jouait Boromir. Faramir, le frère de Boromir.
Et Boromir, donc c'est un peu Sean Bean, celui qui meurt tout le temps.
Ouais, c'est ça. Et c'est une série policière assez glauque qui se passe en Nouvelle-Zélande. Donc déjà d'un point de vue dépaysement, c'est magnifique. On est dans des lieux qui sont sublimes. Et ça joue beaucoup en fait l'esthétisme, c'est très froid mais c'est magnifique. Et ça commence en fait avec une jeune fille qui de 12 ans qui veut se suicider en fait. On la voit, elle va dans un lac, elle commence à vouloir se suicider. Bon, finalement elle est les gens la voient, elle la sauve et on se rend compte qu'elle est enceinte. Et donc à 12 ans, elle est enceinte et donc ça va être une enquête policière avec une flic qui du coup se trouvait là pour rendre visite à sa famille et qui va justement essayer de savoir si cette fille a été violée, comment ça se fait qu'elle est tombée enceinte. Et voilà, c'est assez glauque, mais c'est vraiment fait de façon pudique, c'est-à-dire ça cherche pas la surenchère. Ça m'a fait beaucoup penser à l'ambiance de Broadchurch que j'avais vu en début d'année et que j'avais beaucoup aimé. Pareil avec un duo un petit peu de flics aussi. Et je le conseille à tout le monde. C'est vraiment une très bonne série avec une belle conclusion assez sombre, mais à découvrir en 7 épisodes, sachant qu'il y aura probablement une saison 2 quand même.
Bien, j'avais vu passer le résumé moi et comme je suis sur tellement de séries, je me suis dit bon, on verra peut-être ça plus tard. Ça me paraissait un peu glauque comme.
Oui, mais en fait non, c'est fait vraiment de façon très très pudique et C'est vraiment lunaire, quoi, parce que t'es dans une population qui vit éloignée de tout, et ça joue beaucoup justement ce côté, cette sensation d'isolement. Et il y a des choses assez barrées, assez starbées, mais c'est très 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 prenant et très poignant.
C'est limite un
Bah,
huis
du
clos, en
coup,
fait.
bah, une sorte, mais dans une grande ville, enfin une grande région autour d'un lac en Nouvelle-Zélande, quoi.
Oui, c'est un grand huis clos, quoi.
Je suis sûr qu'il y a une vanne à faire là.
Même
Bah, elle
pas,
s'appelle
j'y pensais
Thuy,
même pas.
c'est un Thuy clos. L'héroïne s'appelle Thuy.
Non, je pensais peut-être à faire un truc comme Space Mountain. C'est un grand 8 clos.
D'accord,
Voilà.
moi c'est pas
Oh.
mal. Ou pas, non, c'est nul
Voilà,
en fait.
c'est. Oui, les dernières vannes de l'année, on a
Ah, elles sont
épuisé
pas
tout le
bonnes, elles
stock.
sont.
Je crois qu'on avait déjà épuisé le stock en avril, en fait, des bonnes vannes, donc.
Ouais, c'est fini.
On était à crédit déjà.
On va passer à toi peut-être pour ton WhatsApp, Corinne, puisque tu nous as dit que tu avais du WhatsApp.
Oui, alors depuis un mois et demi, on va dire, je me suis mis au jeu de figurines Star Wars X-Wing, qui est très très addictif. Et donc voilà, je suis là-dessus. Je collectionne aussi bien les figurines de l'Empire que de l'Alliance. Et le principe, c'est le
Comme ça, double
mélange.
prix.
Ça, oui, pas pour moi, oui. Le principe, c'est qu'on a un mélange entre un jeu de figurines battle classique et les jeux de cartes évolutifs. Donc, on va avoir des vaisseaux auxquels on va adjoindre des cartes qui vont spécifier le type de pilote. Et puis, s'ils ont des armements spéciaux qui vont faire plus ou moins de dégâts ou stresser le pilote adverse ou lui retirer des bonus. Et après, il y a plusieurs modes de jeu. On a le mode classique qui est le dogfight. On met deux armées l'une en face de l'autre, et puis ça se rentre dedans jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit mort. Alors il y a un système de points pour équilibrer tout ça. Et puis après il y a un système avec des scénarios. Donc on peut refaire la bataille d'Endor ou des choses comme ça. Et c'est assez sympathique, assez prenant. Pour l'instant j'ai fait que du dogfight. Et je dois avouer que je me marre bien. Et pouvoir jouer avec Dark Vador et poutrer la gueule à Luke Skywalker, par exemple, ça n'a pas de prix.
Ça aurait été de l'ordre des choses naturelles.
Ah ouais, papa qui fout une grosse claque au fiston qui lui casse les pieds, hein.
Pour être poli.
Voilà, et donc les figurines sont super jolies.
Je confirme.
Voilà, une idée de cadeau de Noël en retard, par exemple, ou alors pour investir l'échec cadeau que vous aurez eu.
Ouais, non, ça m'intéresse pas tant qu'ils feront pas Star Trek. Ah.
Eh ben, figure-toi qu'ils sont en train de le lancer.
Non, non, mais non, mais me dis pas ça, mais arrête, t'es fou.
Je suis passé à la boutique ce week-end et il y a des figurines Star Trek sur le même principe de jeu.
Faut pas me
Elles
dire
sont,
ça parce que je vais
par
faire des
contre,
bêtises après.
ouais, mais elles sont beaucoup moins belles. Pas sur du
Monsieur.
Star
Ah, c'est
Wars.
normal, la supériorité de Star Wars est confirmée.
Mais je vous merde les gens, c'est tout. C'est vous qui n'avez pas de goût. Et oui, on va finir cette année comme on l'a commencé avec le débat Star Trek meilleur que
Ouais.
Star Wars ou pas. Selon les goûts, non, selon les goûts, je veux pas favoriser un camp ou l'autre, même si ma préférence va forcément à Star Trek et que les autres ont mauvais goût. C'est tout. Allez, un petit WhatsApp pour moi rapide. Bah, vous verrez ça dans le spécial série à venir pour ce petit break d'hiver que l'on fait, puisque voilà, ces derniers temps, j'ai surtout essayé de rattraper du retard pour préparer cette émission.
T'as maté plein, plein, plein de séries. D'accord.
Oui.
Tu t'es gavé. Ok.
Oui, j'en ai d'ailleurs, je suis moitié aveugle maintenant puisque voilà, j'ai regardé tellement de séries, j'en ai les yeux qui saignent.
Quel professionnel ce Steve.
Ouais, c'est. Ouf, ouf, voilà. Bref, passons à
Reporter de
l'actu.
l'extrême.
Passons à l'actu parce qu'en fait, j'ai plus rien à dire de drôle, tout simplement. Donc, l'actu, Bruno, tu allais démarrer
Oui.
avant que je fasse un petit stop, on fait l'anarchie!
Ouais, c'est ça. C'est le dictateur Steve qui a changé le cours du podcast. Mais donc maintenant, on revient aux news un petit peu qu'on a sélectionnées. Donc moi, j'ai sélectionné 5 news qui m'ont marqué cette année. Et
Oui, mais tu vas pas faire les 5 d'un coup.
non, non, si, je vais tout vous balancer d'un coup là,
Ça, non, ça c'est
un gros
sale, ce que
sac.
tu dis, c'est très sale.
Mais non, non, je vais commencer déjà par une première news. Ça concerne Marvel. Et ça concerne les histoires qu'on a eues cette année chez Marvel. Et deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est le passage de relais de Steve Rogers à au Faucon pour le All New Captain America. Et l'autre, c'est la disparition d'un personnage quand même majeur de l'univers Marvel, c'est Wolverine qui a passé l'arme à gauche. Donc deux événements qui pour moi ont été assez intéressants et plus ou moins bien amenés. C'est-à-dire que dans un cas, dans le cas de Captain America, je trouvais que la transition était vraiment très bien faite de la part de Remender, qui dans sa série Captain America et dans par la suite ce qui se passe avec Axis, je trouve que c'est plutôt bien bien fait. Alors que
Bah, il a
pour
pu amener vraiment les choses, il a préparé le terrain
petit à
lui-même
petit,
puisque
ouais.
ça venait de sa série.
Voilà. Alors que pour Wolverine, j'ai eu quand même une sensation, malgré une bonne mini-série de Charles Soule, d'avoir une préparation un petit peu faite à l'arrache par Marvel, malgré ces fameux teasers, voilà, dans 3 mois, Wolverine meurt et compagnie.
Ouais,
Mais
le
le
fameux
run de Paul,
countdown.
ouais, le run de Paul Cornell sur Wolverine ne restera pas dans les annales, ou
Ouais.
plutôt, si, le restera, mais c'est vraiment très très mauvais. Ça pue
Honnêtement,
du cul.
on peut très bien aborder ce Death of Wolverine en tant qu'entité propre sans
Ouais.
avoir lu les
Ce
runs,
qui s'est
puisqu'il y a
passé
eu deux
avant, ouais.
runs de suite hein, de Paul Cornell. Et franchement, ça se lit très bien. Moi, je garde en mémoire surtout la façon dont ça a été annoncé, puisque on ne voulait pas y croire. Je me rappelle très bien ce qu'on avait dit à l'époque dans les Weekly News. Ouais, la mort de Wolverine, coup marketing, machin, est-ce qu'ils vont vraiment le tuer? Ils nous disaient oui, cette fois-ci, c'est pour de bon, on le tue vraiment, et on avait un peu de mal à y croire. En tout cas, les rumeurs veulent que Wolverine reste mort au moins jusqu'à 2016.
Ouais.
Ce qui est toujours très ridicule hein, de le dire comme ça, mais ça veut dire que c'est une mort qui compte. Hein. Une mort qui dure plus de 3 mois est une mort qui compte chez Marvel. Et surtout, même Wolverine mort, eh bien, on va continuer à faire du fric sur Wolverine, puisque Wolverine Legacy, Wolverine en
Wolverines.
vacances, Wolverine à la plage et compagnie.
Et la grosse
Alors.
série hebdo Wolverines qui commencera au mois de janvier, qui sera censée nous amener un petit peu sur la relève de Wolverine. Et c'est Charles Soule qui va gérer cet événement. Donc, ça sera quelque chose qui sera à suivre l'année prochaine. Marvel qui se lance dans la série hebdo. Est-ce que ça marchera aussi bien que pour DC avec les séries Batman, Eternal et compagnie? Ce sera un petit peu quelque chose à voir l'année prochaine.
Ouais, enfin, j'allais dire premier essai, bah, je crois que si, en fait, premier essai d'une série régulière hebdo pour Marvel, hein. Je me rappelle pas là comme ça qu'ils aient fait une
Ben non,
série
ouais.
hebdo régulière. Ils ont fait
En
des events en format hebdo, ils ont fait des crossovers en format hebdo, mais une série régulière vraiment chez Marvel, j'ai pas le souvenir.
et
bah
là
il copie ce que DC a fait pour Batman
ouais
Eternal
c'est ça.
avec pareil leur gros personnage qui fait vendre.
Le truc, c'est que DC, on sait qu'ils ont l'habitude et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de retard sur leur série hebdo. Marvel, par exemple, quand ils ont annoncé Death of Wolverine, c'était censé être sur un seul mois, le mois de septembre. Voilà, au bout de deux numéros, il y avait déjà des retards. Donc, ça va être intéressant de voir comment ce sera géré. Est-ce que cette fois-ci, ils s'y sont préparés un peu plus à l'avance? Et voilà. Et puis, surtout, quelle sera la qualité de la série, quoi.
Autre série hein, qui devrait lancer bientôt, je pense, en 2015, une série Inhumane par Matt Fraction et Joe Madureira en format hebdo. Oh, le méga
Alors,
troll!
Madureira quand même qui aura fait 3 numéros sur Inhuman et qui se sera barré après. Et puis des numéros en retard hein, en plus.
Et justement, tu me fais une très bonne transition pour une autre des news marquantes de l'année. Ce sont le retour des séries hebdo chez DC, avec non pas une, mais trois séries hebdo. Ils ont beaucoup tiré sur la corde. Peut-être un peu trop, mais puisqu'on voit que les chiffres de vente, hein, notamment des autres séries autres que Batman Eternal, sont pas forcément très très bons, sont beaucoup moins bons. Et surtout la dernière, hein, c'est vraiment pas bon du tout. Je pense que c'est pas du tout à la hauteur de leurs espérances. Même s'ils savaient très bien que la niche était plus confidentielle pour tout ce qui est série de Earth 2. Mais voilà. Peut-être en ont-ils trop fait justement sur ces séries hebdo. Le concept est bon, ils ont enfin une série hebdo qui remarche, hein, puisque bah depuis 52, c'était quand même pas forcément ça. Entre les Countdown to Final Crisis et puis les Trinity, c'était pas top top. Et effectivement, là celle-ci marche, Batman Eternal marche très bien.
Batman Eternal marche très bien. Après, effectivement, pour World's End, disons que les niveaux de World's End sont comparables à ceux de Earth 2, donc qui est pas la série qui se vend le mieux, mais par contre, au moins les gens qui sont fidèles à la série mensuelle, bah, ont tenté l'expérience et après 6 numéros, on reste autour des 27 000 ventes à peu près, entre 27 000 et 30 000 ventes. Donc, sachant qu'il y a 4 numéros par mois, bon, dans les comptes, c'est quand même des bons chiffres quoi pour DC. Futures End, c'est la série un petit peu qui tentait quelque chose avec une sorte de d'Elseworld qui se passe dans le futur. On sait très bien que ce sera pas le vrai futur de DC, mais qui est censé nous amener sur l'événement de l'année prochaine, Convergence. Voilà, leur mois qu'ils ont fait au mois de septembre avec tous les numéros Futures End, ça a été plus ou moins réussi. Je me demande si c'est pas la dernière année où ils vont faire un mois spécial de septembre, surtout que l'année prochaine on aura Convergence qui sera un petit peu sur le même principe et ça ferait peut-être beaucoup sur une année.
Ah, moi, tu sais, franchement, vu qu'ils ont vraiment tiré sur la corde avec trois séries hebdo, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent 2 mois, enfin, même 3 mois, puisque Convergence va durer l'équivalent de 2 mois, mais qu'ils fassent deux gros événements comme ça, sur des mois spéciaux.
C'est possible. Mais en tout cas, oui, pour Batman Eternal, c'est vraiment un très bon succès, puisque c'est un titre qui tourne à 50 000 ventes bah, tranquillement, quoi. Et on sait déjà qu'il y a une saison 2 qui est prévue l'année prochaine. Donc voilà, donc on va bouffer du Batman en version hebdo encore pendant quelques temps.
Ah, c'est clair. Il a la cote, le chevalier noir. Mais vous parlez de, je sais pas si vous avez fini, mais vous parlez de convergence. Moi, ça me permet de rebondir sur la news marquante pour DC, c'est leur déménagement sur la côte ouest.
Ouais, j'en parle, je comptais en parler si personne en parlait, donc c'est très bien, non, c'est très
Donc voilà, mais magnifique enchaînement. Pourtant, c'est censé être l'anarchie. Hein. Ça va
bien.
pas, ça, les mecs.
C'est bien la preuve que c'est la totale professionnalisation.
Ouais, c'est ça.
Ah là, je m'en étouffe
Et
du coup.
ça, c'est beaucoup moins professionnel d'un coup, voilà. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de bien, on le détruit derrière parce que nous, on est
Exact.
des fous.
Derrière, bah, voilà.
Bah, il fallait un peu d'anarchie. Voilà. Donc oui, DC qui a
T'aurais dû faire un bruit de
annoncé.
paix pour l'anarchie.
Oh, mais ça peut s'arranger. Hein.
Non, non,
Non,
non,
on
ça
va
va aller,
éviter,
ça
ouais.
va aller, merci.
Donc, DC qui a annoncé cette année qu'il déménageait sur la côte ouest, avec bah, des conséquences plus ou moins malheureuses pour certains, puisque toutes les équipes ne vont pas suivre. Mais les équipes ont le choix de soit d'accepter de déménager à l'autre bout du pays, soit de se retrouver au chômage. Bon, il y en a certains qui ont décidé de rester sur New York parce que. Voilà, ils avaient leur famille ou d'autres raisons, hein, peu importe, ça les regarde eux. Et puis il y en a d'autres qui ont suivi le navire vers l'ouest. Alors la raison que DC a avancé, c'était pour se rapprocher des équipes plus film, animation, qui sont basées là-bas, et rationaliser un petit peu bah, toutes ces équipes. Et bon voilà, les conséquences, ça a été de nombreux départs de personnes plus ou moins importantes de la distinguée concurrence. Et ça a amené à un chambardement qui est Convergence, qui va nous tomber sur le poil au printemps prochain.
Ouais.
Ouais,
Ben
donc
oui, du grand grand changement.
ouais. Historiquement, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, puisque les Big Two étaient vraiment localisés à New York et c'était ouais, ils étaient face à face quoi. Et là, cette fuite de DC à l'ouest, bah, ça a causé le départ de pas mal d'éditeurs qui sont partis soit à la concurrence, soit chez Valiant aussi. Il y a eu quelques exemples. L'effet convergence, d'après DC, c'était quelque chose qui était prévu depuis très longtemps, mais bon, le déménagement aussi, hein, c'était quand même dans les têtes depuis un moment. Voilà. On verra ce que ça aura pour conséquence, l'année prochaine.
On passe peut-être à une autre news marquante de l'année.
Oui, alors moi, ça concerne les chiffres de vente. Moi, ce que j'ai noté, un événement assez important. Pour l'année 2014, c'est enfin, on a un éditeur indépendant comme Image qui dépasse les 10% 2 fois dans l'année, chose qui n'était pas arrivée depuis les années 2000, où en fait Image avait des gros scores, hein, fin des années 90 jusqu'à 2000, depuis ils étaient restés systématiquement sous la barre des 10%, et cette année en fait on a eu 2 mois, le mois de mars et le mois de novembre, où ils ont dépassé les 10, ils sont autour de 11% des parts de marché. Et bah, ça reflète bien, je trouve, la santé d'Image qui, de par la qualité de ses titres et par la variété, offre vraiment maintenant un choix hyper important et hyper impressionnant pour les amateurs de comics. Et j'avoue que je suis énormément de séries chez Image. C'est peut-être l'éditeur chez lequel je suis le plus de séries. Enfin, je parle en indé parce que je suis quand même énormément de séries chez Marvel, mais voilà. Et je trouve que c'est mérité parce qu'ils tentent de très bons projets. Il y a de chaque mois, on a des nouveaux titres qui commencent et on a toujours des petites perles, des petites surprises. Et puis bah, ils profitent quand même du grand wagon Walking Dead et actuellement Saga aussi qui marche très très bien, qui les aide énormément pour voilà pour prendre un peu le pas sur tous les autres éditeurs indépendants. Donc voilà, je voulais féliciter un petit peu Image et je pense que ça va continuer et qu'ils sont vraiment encore sur une pente ascendante.
Mais il faut quand même. Vas-y, pardon, je t'en prie, Corinne.
C'est ce que j'allais dire, ce qui les aide pas mal, mais enfin ça montre aussi la qualité. C'est Walking Dead et l'importance que ça a pris ces dernières années. Et comme tu le dis, après il y a des titres qui sont carrément canon, même Bunny Siemi. À savoir Saga.
Bon, c'est pas encore s'il a aimé, mais.
En tout cas, il a intérêt à s'y mettre parce que vu le cadeau qu'il a eu,
C'est clair.
Moi justement, je voulais revenir sur ça. Tu parlais des chiffres de vente. À ne pas oublier quand même qu'il y a eu plusieurs mois où les chiffres de vente ont été un petit peu truqués. Enfin truqués, pas forcément volontairement, mais avec cette fameuse Geekbox.
Oui, les loot crates.
Les loot crates, voilà.
Qui sont effectivement un nouveau phénomène qui modifie un petit peu les chiffres de vente, dans le sens où on a des titres qui sont achetés à autour de d'une centaine de milliers d'exemplaires pour être mis dans des boîtes cadeaux qui sont envoyées aux gens qui s'abonnent. Et c'est vrai que ça a eu tendance à... Pour Walking Dead, il y a eu un numéro comme ça qui a été concerné, je crois, et il y a eu récemment pour Rocket Raccoon, ils ont fait ça aussi pour un numéro de Batman. Et c'est vrai que c'est un nouveau phénomène à prendre en compte quand on analyse les chiffres de vente de Diamond. Mais voilà, mais ça explique pas quand même le succès d'Image,
non,
par
non,
exemple,
non,
ce mois de novembre.
C'est sûr. Mais la part de...
Ouais.
De comics vendus, justement, on se retrouve un petit peu modifié et le pourcentage obtenu.
C'est clairement quelque chose à prendre en compte. Et alors, ça dépasse un peu sur 2015, mais quand même, la grosse news de fin d'année concernant justement les ventes, c'est les prédictions de vente de Star Wars numéro 1 qui table sur pour dépasser le million d'exemplaires, chose qui n'a pas eu lieu depuis. Une dizaine d'années, je crois, et ça c'est quand même sacrément impressionnant, sachant qu'on a plus de 60 variantes qui ont été annoncées pour le moment. La plupart de ces variantes, ce sont des variantes spécifiques à des comic shops, sachant que pour qu'ils puissent avoir une variante spécifique, il faut qu'ils commandent 3000 exemplaires. Donc je pense que des Star Wars numéro 1, on n'aura pas trop de mal à en trouver dans les comic shops dans les années qui viennent.
Mais c'est juste des prédictions ou il y a déjà eu des précommandes?
Non,
des précommandes.
Les précommandes sont passées le mois dernier, donc je pense que les chiffres sont plus ou moins maintenant affinés et je pense qu'on va atteindre le million. Si on compte en plus les reprints ou les choses comme ça. Voilà.
Mais je pense que justement 2015 ça va être une sacrée année pour Star Wars parce que il y a ce film qui arrive fin 2015 et donc du coup. Bon, on va retrouver du comics Star Wars dans les kiosques pendant tout au long de l'année. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que finalement, du Star Wars, j'en ai lu très peu en comics. Même si j'aime beaucoup l'univers, j'ai lu très peu de comics Star Wars. Là, je vais pouvoir m'y mettre avec ce nouvel univers que va nous proposer Disney, parce que c'est Disney qui est derrière. Hein.
D'ailleurs, effectivement, le passage de Star Wars chez Marvel, c'est quelque chose qui est arrivé au tout début de l'année 2014, cette annonce. Ouais. C'est quand même, effectivement, un des gros gros coups à retenir de cette année, puisque ça change énormément de choses, à la fois pour Dark Horse et pour Marvel, qui met vachement en avant les titres Star Wars pour les prochains mois.
Et d'ailleurs, c'est arrivé en début d'année, et on est à la fin de l'année, on a déjà un trailer pour le film de 2015. Enfin, ça s'est enchaîné super vite pour l'univers Star Wars, quoi.
Preuve qu'il y avait déjà des choses de prévues.
Oui, voilà, c'était déjà prévu sous le manteau, parce que c'est des trucs de cette ampleur-là, ça peut pas se faire comme ça en un an, c'est pas possible. Mais voilà, ils ont su garder le suspense et puis faire cette série d'annonces qui est, enfin, moi je trépigne, hein, très clairement. même si le nouveau sabre laser est discutable.
Ouais, bah ça faisait clairement partie, effectivement, Star Wars 7, des choses que j'attends le plus l'année prochaine. Je crois qu'au niveau cinéma, c'est ce qui m'excite le plus, même si j'ai pas mal d'appréhension. Mais parmi toutes les licences...
On aura l'occasion d'y revenir hein, sur le cinéma
ouais, voilà.
Un peu plus tard dans l'émission, et notamment sur ce qu'on attend pour 2015. Dernier petit point sur les chiffres de vente, ce que l'on peut noter hein, sur la fin de l'année notamment, c'est la chute des éditeurs, des plus petits éditeurs hein, comme IDW, comme Dynamite, etc. On en parlait dans le dernier Weekly News. C'est vrai que les chiffres de vente, les porte-monnaies sont pas extensibles, le nombre de lecteurs de comics ne grandit pas tant que ça, ce qui fait que si Marvel, DC et Image montent, forcément il y en a qui mangent dans le lot, et ce sont les plus petits éditeurs qui ont tendance à voir leur part de marché se réduire peu à peu.
Ouais, c'est vrai. Et pourtant, ils tentent énormément de choses en relançant des séries, en testant des nouveaux titres. J'ai l'impression qu'ils misent un peu trop systématiquement sur les licences tiré du cinéma aussi. C'est quelque chose qu'on a de plus en plus chaque mois, enfin chaque semaine, on nous annonce un nouveau comics tiré d'un film. Là récemment, on a eu l'annonce par exemple de La Mouche, mais on a eu c'était quoi, Bill and Ted. On a eu, on a tellement de choses qui sont annoncées côté adaptation de films en comics que j'ai peur que ce soit un petit peu la solution de facilité. C'est pas sûr que ça marche et que ça leur apporte tant de ventes que ça.
On verra, l'avenir nous le dira sur les chiffres de vente 2015. Rassurez-vous, en 2015, on continuera de vous parler des chiffres de vente parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui représente bien le marché, qui permet aussi de, quand on analyse bien les chiffres, de voir où on est et surtout d'essayer de comprendre un petit peu où on va, en tout cas d'émettre quelques suppositions et d'avoir des bonnes idées sur comment le marché va continuer à se développer ou non. Une autre news de 2014 marquante pour toi, Corwin?
Je vais rester chez DC.
Écoute, reste-y, hein, si tu veux.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est par rapport à une série que j'aime beaucoup et que je suis en VF, qui est Green Arrow, à savoir le départ de Jeff Lemire et d'Andrea Sorrentino sur ce titre. Ils font du super boulot avec Green Arrow. C'est vraiment magnifique et très très bien écrit. Et voilà, c'est peut-être une des conséquences du déménagement, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire.
Je suis pas certain. Pour ma part, je pense vraiment, parce que c'est surtout, faut voir qui a repris derrière. Moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est que ce sont les créateurs d'Arrow.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, je voulais nuancer le propos, en fait, si tu veux.
Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire, mais j'ai l'impression que c'est aussi une histoire de gros sous, et je pense que oui. Marvel a proposé un pont d'or à certains auteurs. On s'est pas concerté avant, mais parmi les choses que j'avais retenues cette année, il y avait effectivement ce côté où, personnellement, j'avais mes auteurs mainstream favoris qui se sont complètement cassés de DC. Donc tu parles de Jeff Lemire, mais je pourrais rajouter aussi Charles Soule et Tom Taylor, qui sont devenus exclusifs Marvel, et qui, pour moi, étaient mes auteurs favoris chez DC. Et c'est vrai que c'est un peu l'exode des stars montantes qui ont fait des bonnes choses chez DC, qui partent à la concurrence. Et c'est vrai que ça a été assez important cette année.
J'ai choisi Lemire et Sorrentino par rapport à... Ouais. C'est un des travaux chez DC que je préfère. Hein.
C'est assez ironique en plus pour Jeff Lemire, puisque en plus on sait que maintenant il va reprendre le personnage de Hawkeye pour l'écrire chez Marvel. Et j'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'il va en faire. Parce que...
Ouais. Tu m'ôtes les mots de la bouche.
ça reste quand même un marché. Il a l'air de vouloir y introduire une sorte de mythologie autour de peut-être son héritage, qu'avant il y avait peut-être des Hawkeye avant lui. Enfin, je suis curieux. Je l'attends vraiment au tournant. J'espère qu'il va pas nous refaire une ressucée de son Green Arrow, parce que ce serait un peu décevant.
Oh, je sais pas. Écoute, amener ça sur le personnage d'Hawkeye, moi, ça me plairait.
Après, c'est vrai qu'Hawkeye, c'est un personnage assez mystérieux où, au final, son passé est assez nébuleux, même s'il y a eu 2-3 informations sur comment il est devenu Hawkeye et sur ce qu'il faisait avant. Mais ça reste encore très peu défini. Et il y a beaucoup de choses à faire, je pense, dessus, effectivement.
Mais, ça amènera peut-être un film Hawkeye.
Je sais pas, si Jeremy Renner, c'est quand même un acteur qui,
c'est un bon acteur,
qui fait venir les gens au cinéma. Il a fait pas mal de films à gros succès, mais je le trouve pas encore super à l'aise, moi, en tant qu'Hawkeye. Dans Avengers, c'était, je trouve, le plus faible. Mais peut-être dans Age of Ultron, il va se révéler parfait, donc à voir.
Voilà, donc donc le départ de ces deux gros artistes hein, de chez DC, et comme disait Bruno, il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls. Peut-être symptomatique aussi de comment DC fonctionne et comment il traite ses
Ces
auteurs.
auteurs.
Il y a eu pas mal de polémiques autour de ça cette année. Ça avait commencé à la fin de l'année dernière, il me semble.
Ouais, ça a émaillé un petit peu, enfin tous les New 52, mais il y a eu des clashs par moment. Bon, après ça a l'air de revenir un petit peu dans l'ordre sur ces derniers mois avec bah, ils essayent un petit peu d'instaurer pas mal de fraîcheur d'essai sur pas mal de leurs titres. Ce qui peut attirer certains créatifs. Mais
Et
voilà.
2014, ça a un petit peu été l'hémorragie de leur côté,
Ouais,
je
c'est clair.
trouve.
On parlait de cinéma juste avant, et justement, le cinéma a eu une grande importance, le cinéma et la télévision ont eu une grande importance en 2014 côté comics. Je vous propose qu'on passe maintenant à une petite partie cinéma.
Oui.
Je crois que la plus grosse annonce. Enfin, les deux plus grosses annonces, parce qu'elles sont à peu près similaires, ce sont les plans pour les deux gros studios Marvel et DC, à savoir donc Disney et Warner au cinéma. DC qui nous annonce un plan de 8 ou 9 films,
Ouais, sa
Marvel
fameuse phase
aussi.
3 pour Marvel. C'est surtout que c'est amusant de comparer les deux au niveau de la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu les infos pour DC, mais ça s'est fait de façon un petit peu confidentielle avec des
Bah, ça s'est
annonces.
fait à l'arrache avec un
Ouais,
PowerPoint de chez Warner
c'est
dégueulasse.
ça, pour satisfaire justement les financiers et les actionnaires. Alors que Marvel derrière ils ont balancé la sauce façon show à l'américaine pour vraiment un événement qui a quand même pas mal marqué avec même du trollage genre avec un en annonçant un faux film Captain America sur la Société du Serpent pour
J'ai
finalement
trouvé ça
nous
assez drôle.
aboutir sur un Civil War. Voilà, là on voit le talent quand même de Marvel Studios pour marketer ces films
Le
avec.
talent de Marvel Studios et surtout l'immense talent de Kevin Feige
Ah
concernant
ouais,
la communication.
c'est
Parce
clair.
que vraiment, si Marvel réussit autant ses effets d'annonce et ses effets de com, c'est vraiment dû à Kevin Feige.
Ah ouais, non, il fait ça vraiment très très bien. Et voilà, enfin quand on prend maintenant le bilan de tout ce qui nous attend côté cinéma sur les années à venir en adaptation de films de comics, enfin en adaptation de comics, pardon, c'est assez impressionnant. Voilà, DC a encore tout à prouver, hein, avec on verra déjà les résultats de Batman Superman en 2016. Ça s'est un peu concrétisé aussi avec Suicide Squad qui a été confirmé avec un casting assez haut en couleur.
All-Star.
Ça va être vraiment l'année du test, hein, 2016, pour voir ce qui va se faire après avec cette fameuse licence. Pour Marvel, on se fait pas trop de soucis, hein, ils sont tranquilles là.
Ils ont des bonnes bases et alors moi justement sur toutes ces annonces, alors dans mes notes j'avais écrit ciné le planning de foot DC Marvel parce que on va en manger quand même. Après moi j'entends souvent des gens dire est-ce qu'on va pas vers l'overdose du film de super-héros? Personnellement, je suis pas sûr, parce que, au final, quand on regarde toute la production cinématographique sur un an, il n'y a pas tant de films de ce genre-là qui sortent, en dehors de Marvel et DC, si on compare ça aux blockbusters classiques. Les blockbusters classiques, enfin voilà, on en mange tout au long de l'année, quoi. L'été,
Oui,
l'hiver,
mais
au
ce sont des
printemps.
thèmes différents. Là, ça reste quand même des thèmes de super-héros. Certes, des traitements différents, mais des thèmes de
Oui,
super-héros.
mais regarde, si tu ramènes ça en tout, ça va en faire quoi? Ça va en faire 3 ou 4 par an, grand maximum?
3 ou 4 par an sur les studios principaux. N'oublions pas tout ce qui sort en indé.
Ah mais je le compte pas, ça.
Ah ben ouais, mais il faut le compter dans les films de tirés de super-héros, malgré tout.
Mais oui, mais si tu veux, sur les films un peu plus indé, il y a même des gens qui vont se dire, ah bon, c'est tiré d'un comics? Et oui, et ils s'en rendent pas compte, tu vois.
Ouais, mais
Ce que
alors
je veux dire.
attention, la notion entre les films tirés de comics et les films de super-héros. Je pense notamment aux licences de Mark Millar qui sont censées arriver, ce genre de choses qui sont
Oui,
très
enfin.
super-héroïques.
Un jour, peut-être. quand il aura le temps de travailler dessus. Enfin, je sais pas, ça me semble être un peu l'Arlésienne. Hein.
Et puis, il faut pas oublier les films de la Fox, les films de Sony. Ouais. Enfin, si tant est que Sony fasse encore des films, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Un ça, peu
c'est
le gros fail de l'année, quand même. Mais...
Ouais. Alors, c'est pas de leur faute. Tiens, je vais faire une parenthèse là-dessus. Donc, ils se sont fait avoir par des hackers coréens, ça a révélé plein de trucs. Et je sais pas si vous avez vu que là, la Corée du Nord, ça fait quand même 2 jours de suite que leur internet tombe complètement.
Ah bah,
ils sont en train de se prendre une réponse des hackers américains qui sont pas contents. Ouais, non, mais.
Mais,
ça, c'est ça.
Mais voilà. Enfin, le.
Ferme la parenthèse.
Si sautons à la première guerre virtuelle.
Ouais. Ouais. Non, c'est. Sachant qu'il y a, il y a eu quand même une grosse polémique avec le film qui a été le film The Interview qui au final avait été annulé puis maintenant en fait il confirme qu'il sortira bien. Donc ça c'était quand même assez intéressant de suivre ça et par contre Sony vraiment bah, au niveau de leur communication, au niveau de leur image, ils ont pris un gros coup. Et puis quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des films de super-héros, le Spider-Man a quand même eu très mauvaise presse. Et le Spider-Man 2 et il a pas fait non plus des scores faramineux par rapport à ce qu'ils attendaient.
Oui, donc, par rapport à ce qu'ils attendaient parce que les scores sont quand même tout à fait honnêtes hein. Je suis désolé, 600 quasiment 600 millions, peut-être même un peu plus.
Mais
c'est tout à fait honnête pour un film.
Ils attendaient beaucoup plus et du coup, c'est vrai que tous les films qui étaient censés sortir sur la continuité Spider-Man, Amazing Spider-Man sont pour l'instant un petit peu en limbo. On sait pas s'ils se feront vraiment quoi. Mais
ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait peut-être un moyen pour que Spider-Man fasse team-up avec les Avengers. Bon, même si Sony a avorté le projet.
Ouais, enfin, ils ont avorté le projet là. Oui, oui, voilà.
Hein, avec ce qui s'est passé, peut-être qu'ils vont en reparler. On a besoin d'argent, s'il vous plaît. Je sais pas.
Ah, ça va être un dossier à suivre, ça, effectivement. Est-ce qu'il y aura des péripéties?
Ouais, gardez un œil là-dessus sur 2015, je pense.
Ouais. Donc on a parlé de tous ces films annoncés, mais ce qu'il faut pas oublier aussi, ce sont toutes les stars annoncées au casting de ces films de super-héros.
Ah oui, non, c'est incroyable, c'est vraiment tout le gratin d'Hollywood qui maintenant participe aux films de super-héros. On a même des acteurs comme on en a parlé récemment dans une émission de Al Pacino qui aimerait bien jouer dans un film de super-héros quoi. Donc tous les oscarisés, toutes les grosses stars veulent faire partie de cette aventure et on se met à rêver. Enfin, je sais que par exemple le Avengers 3 qui sortira 2018-2019, si on est censé avoir un petit peu tous les acteurs dans le même film, ça va être juste l'orgie au niveau du casting quoi. On aura un truc de ouf et voilà, et même DC Cimé aussi avec, on en parlait de Suicide Squad qui a quand même un casting assez 4 étoiles. Ouais, non, c'est les films de super-héros ne sont pas du tout boudés par les stars, au contraire.
De même que les séries télé, hein, qui continuent à être annoncées comme des dingues en 2014, le nombre de projets en séries télé dérivés de super-héros ou de comics devient complètement hallucinant.
Ouais, c'est dingue ça, effectivement. Et du coup, autant un film, je veux dire, c'est facile. Enfin, je veux dire, s'il sort 5 ou 6 films de super-héros par an, on peut aller les voir. Enfin, je veux dire, ça prend une soirée, une chose comme ça. Mais suivre 7, 8 saisons de 25 épisodes pour chaque série de super-héros, c'est compliqué. Je sais que moi, au départ, j'étais vraiment parti dans l'idée de les regarder un petit peu tous. Et je crois qu'actuellement, j'en suis plus qu'une seule, c'est Agent of S.H.I.E.L.D. Et c'est un petit peu difficile, mais il y a tellement de choses qui sont annoncées, c'est un peu la folie quoi.
Tu vois, je pense que là la saturation elle aura peut-être du monde des séries.
Bah, j'ai plus peur de ce côté-là effectivement.
Ouais. Moi je le sens plus comme ça parce que enfin chez Marvel bon ils ont pas encore trop spammé en série pour l'instant parce qu'il y en a quelques-unes qui arrivent derrière, mais on a Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter. Après il y a les séries Netflix. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu passer que Luke Cage avait été casté. J'ai pas retenu le nom de l'acteur.
Ah, c'est celui qui était pressenti pour avoir le rôle, hein, de toute façon.
Oui,
ouais, voilà, c'est Mike Colter. En fait.
Merci. Après, du côté de chez DC ou apparenté à DC, là, ça commence à le nombre de séries commence à bien monter. Quoi.
Ouais.
Ouais. Ben oui, Supergirl sur CBS. Puis ben, rappelons hein, sur les petites chaînes, hein, y a d'autres projets, hein, des Preacher, des bon, iZombie, ça avait été annoncé en 2014 et ça arrive là début 2015. Mais il y a d'autres séries qui ont été annoncées. Et là, j'ai un gros gros blanc, mais un gros gros blanc dans la tête.
Il y avait du Ronin, il y avait du DMZ, il y avait du.
Ronin a été, je crois que c'était une mini-série en 6, mais ça n'avait pas été retenu. Hein.
Il y avait du DMZ, je crois.
DMZ normalement devrait arriver aussi, ouais.
Donc ouais et puis donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de choses. On a cette fameuse série sur Krypton qui est prévue chez Sci-Fi. Donc
sans oublier donc hein, toutes les séries Netflix dont tu as parlé tout à l'heure.
Ouais. Là ça faisait partie d'ailleurs des choses que j'ai retenues cette année, c'était quand même l'arrivée de Netflix en France et qui nous permettra l'année prochaine lors de la série de ces lors de la sortie de ces fameuses séries Marvel. Bah de pouvoir en profiter logiquement en même temps que les États-Unis, chose qui a été vue récemment. Là, il y a par exemple, il y a eu la sortie de la série Marco Polo qui est arrivée le même jour en France et aux États-Unis avec tous les épisodes qui sont arrivés d'un coup. Pour les séries Marvel, ce sera probablement le même système. Et
ils étaient doublés direct en français. Enfin, tu me diras.
Alors, pour Marco Polo, j'ai pas pensé à regarder, mais je crois qu'effectivement, c'était fait.
En tout cas, oui, c'est doublé en français puisque les pubs qui passent à la télé présentant la série sont en VF.
Voilà. Mais d'accord. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez.
Donc, il y a forcément un doublage VF qui existe. Hein.
D'assez cool.
Je regarde très peu la télé, moi, tu sais.
Moi aussi, mais c'est que je suis tombé par hasard sur cette pub et du coup, j'ai vu que c'était, donc, c'était en VF quoi dans la pub, donc forcément
je sais pas s'il y a eu des chaînes déjà françaises qui ont eu des contrats avec Marvel pour pouvoir les diffuser avant, ou est-ce qu'on ça va être via Netflix France qu'on les aura, mais en tout cas j'espère que c'est qu'ils gardent ça pour eux parce que c'est quand même une bonne pub pour que les gens s'abonnent à Netflix et voilà, je sais que le soir où ils vont diffuser, enfin où il y aura un nouveau Daredevil qui sera disponible, mais je vais me les bouffer en deux jours, quoi. Ça va être la folie, quoi. J'attends ça avec hyper impatience, quoi.
Ouais, moi je m'y suis pas encore mis à Netflix. Je fais de la résistance.
Mais attends que le catalogue.
Temps, en fait.
Attends que le catalogue grossisse, tu auras toujours ton mois gratuit. Hein, donc attends que le catalogue soit bien gros, qu'il y ait bien des choses qui t'intéressent pour profiter de ton premier mois gratuit.
Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que à l'heure actuelle, j'ai pas trop le temps de me mettre non plus là-dessus. Puis bon, j'ai encore ma carte ciné, donc je pense que si jamais je passe à Netflix, je l'arrêterai. Histoire de dégager du temps pour regarder ce que j'achète.
Et on parle de Netflix, mais il y a aussi PlayStation qui s'est lancé sur le créneau avec à l'année prochaine, on devrait avoir la série Powers sur le PlayStation Network. Donc c'est un petit peu un nouveau phénomène aussi d'avoir des il y a plus vraiment que les chaînes les chaînes télé classiques qui diffusent des séries, on a maintenant Amazon qui s'y met, on a la Xbox, la PlayStation et la plupart vont du côté un petit peu des séries geeks et des adaptations de comics pour pas mal de projets qui ont l'air assez alléchants quoi.
Mais c'est intéressant ce phénomène parce que est-ce que c'est pas ce qui va tuer la télé, quoi, au final. Moi, c'est ce que je me dis. T'as justement ces médias-là qui proposent de voir ce que tu veux, quand tu veux, au rythme où tu veux,
sans
forcément te manger de pub à la con. Alors que si jamais t'as le malheur de mettre une chaîne publique ou privée, hein, et bah la pub tu te la manges, et maintenant même si tu tapes un replay, tu te dis je vais mettre l'émission en replay qui passait hier soir, et bah là tu te manges la pub en plein milieu, et c'est un logiciel, ça te le coupe à l'arrache quoi. Enfin j'ai déjà eu cette douloureuse expérience, c'est un peu lamentable.
Mais c'est le principe du média gratuit face aux médias payants. Netflix tu payes, donc je vois pas, si tu payes, manger de la pub il en est hors de question quoi.
Ah bah oui.
Donc vu que là le replay c'est quelque chose de totalement gratuit, tu ne payes pas un service, forcément, c'est pour ça que tu prends de la pub.
Et ça, c'est un nouveau mode de consommation des médias qui se développe de plus en plus. Hein. Enfin, là, on a encore la génération de nos parents qui sont habitués à la télévision, mais d'ici une quarantaine d'années, oui, que deviendra la télévision classique ? Ça, c'est.
Elle te servira à regarder des choses comme Netflix,
voilà,
ou autre.
Ouais. Moi, je me demande comment les chaînes privées comme Canal et compagnie vont réagir là-dessus, parce que Là, c'est pareil, tu payes un abonnement. Donc comment ils vont se foutre sur ce créneau-là? Parce qu'ils sont déjà dans une logique, ouais. On paye, les gens payent pour aller voir chez eux.
Bah c'est le truc, c'est que c'est étonnant, c'est qu'ils ont, ils continuent à avoir leur chaîne premium, mais ils ont des services comme Canal Play ou Orange
oui,
Cinéma,
oui, voilà.
Série, qui sont des sortes de Netflix français. Et c'est, voilà, après je pense les gens, c'est plus par habitude, ils sont abonnés à Canal Plus pour le sport plus que pour les films, je pense. Mais
C'est maintenant c'est en train de changer parce que avec Bein, les gens passent sur Bein si ouais. Vous regardez du sport.
Mais oui, il va y avoir une façon. Bon, là, on se lance un peu dans des.
Oui, on est en train de complètement dériver.
De dériver, mais il va y avoir une grosse mutation de la télévision sur les années qui viennent, ça c'est sûr.
Dernière petite news peut-être sur 2014 que vous avez sélectionné, messieurs, avant qu'on passe aux attentes de 2015 pour conclure cette émission.
Moi, Bruno, il m'a piqué la mort de Wolverine en émission.
Et puis, toi, tu m'en as piqué d'autres aussi. Et donc, moi, j'ai fait le point un peu sur les 5 que j'avais sélectionnés. C'est parfait.
Moi, j'en ai une qui est une transition. Je l'ai noté dans Avenir, qui m'intéresse beaucoup, c'est chez Marvel, c'est l'arrivée ou le retour de Secret Wars. Avec ce qui a été teasé pour l'instant.
Bonne transition, ouais, effectivement.
Ouais, t'as vu ça.
C'est le gros event de l'année prochaine.
Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant par rapport aux derniers events qu'on a eu. Alors, je lis au rythme VF, donc j'ai pas encore lu Original Sin. Enfin, j'ai envie de le commencer. Mais voilà, ça va peut-être changer un peu la donne et puis permettre de s'éclater, parce que moi j'aime bien les multivers, donc Secret Wars, ça va être les multivers vont être au cœur de cet événement là en tout cas les personnages issus des multivers, donc quelque chose qui me tente énormément.
Les effets d'annonce avec les teasers de Marvel ont été plutôt ingénieux. Nous en a proposé un ou deux comme ça tous les jours. C'était pas si mal que ça. On s'est posé pas mal de questions pendant quelques semaines.
Ne serait-ce que cette map monde qu'ils ont sorti avec les différentes zones, justement,
du Battle World.
Du Battle World, merci.
C'est mystérieux, en plus.
Ouais,
c'est assez intriguant. Comment ça s'est découpé, qui va taper sur la gueule de qui, comment tout ça va s'équilibrer, enfin. C'est intéressant à voir.
C'est quelque chose qui, que je trouve assez, culotté de la part de Marvel, c'est-à-dire que Secret Wars, clairement, il va être introduit par le run d'Hickman. Et c'est-à-dire qu'ils ont misé sur le run d'Avengers d'Hickman, qui s'étale sur 2 ans d'histoire. 2 ans presque de la même histoire, en fait. C'est ce qui peut être critiqué par pas mal de lecteurs, mais qui est aussi, je trouve, un des points forts de son run sur les Avengers, qui va nous amener à cette Secret Wars... Et ça, je trouve ça assez culotté quand même, et c'est assez intéressant. Et j'avoue qu'en tant que fanboy d'Hickman, j'attends Secret Wars avec énormément d'impatience. Je suis curieux de voir aussi ce que vont faire les autres auteurs avec cette série. Et effectivement, j'aime beaucoup aussi le multivers, donc j'aime beaucoup l'univers Ultimate. Ça, nos auditeurs le savent, et on sent que la fin de l'univers Ultimate est programmée en même temps que Secret Wars. Donc rien que pour ça aussi, ça m'intrigue. De grosses choses effectivement prévues, sachant que là on l'a eu dans le calendrier par exemple de Diamond, on nous prévoit un All New Marvel au mois de septembre. Alors ça va être les grandes interrogations sur ce que ça peut devenir et ce que ça peut être, quoi.
Mais justement, tu me tends la perche, hein, pour terminer ces news de 2014. Le départ annoncé d'Hickman des séries Avengers, donc gros chamboulement. C'était plus ou moins annoncé dans les news, ils ont pas tant communiqué que ça dessus malgré tout. Ce grand changement des Avengers auquel on a pu assister fin 2014, avec, tu en parlais tout à l'heure, hein, le changement de personnes sous le manteau de Cap, le changement d'Iron Man, ce gros logo Avengers Now sur tous les titres, ça a été moins annoncé, moins teasé que les autres choses, mais c'est là néanmoins à voir ce que ça va nous réserver pour la fin. Ce fameux Time Runs Out qui nous ont un petit peu montré et qui a fait un bond dans le futur. Et puis oui, donc ce Secret Wars, hein, qui vient, des gros changements comme ça prévus chez Marvel, jusqu'à où, jusqu'à quand, on verra ça en 2015. Et justement, c'est le bon point de départ pour nos attentes. On a déjà parlé de Secret Wars, bon, je pense qu'on attend tous Convergence aussi.
Perso, moins. Parce
Mais
que
enfin, la question c'est, est-ce qu'on attend convergence ou est-ce qu'on attend ce qui va se passer après
Alors
convergence?
exactement, alors tu vois, dans mes attentes, j'avais mis justement le relaunch du mois de juin de chez DC, où je suis vraiment impatient de savoir quels seront les nouveaux titres annoncés par DC, car après la campagne du mois de mars où justement il y a des décapitations en série de séries justement. Je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont nous servir pour le mois de juin. Et c'est ça qui m'excite plus que Convergence en lui-même, qui je pense sera la série principale. C'est clairement une série que je vais suivre, mais j'avoue être déjà clairement lassé par toutes les mini-séries en deux parties, même s'il y en a deux trois que je trouve assez intéressantes. Mais ça joue peut-être un peu trop sur la fibre nostalgique et c'est surtout au niveau des équipes créatives, j'ai vraiment l'impression que ça fait vraiment trop bouche-trou, quoi.
Moi, j'attends de voir un peu comme toi ce qui va se passer après Convergence. Parce que le gros effet d'annonce au départ, je me suis dit, ouais, bof. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont bien rattrapé le coup au niveau de leur com.
Ouais. Puis au niveau des annonces des séries qui reviennent, hein.
Oui, mais au tout début, la première annonce, bah, j'étais un peu comme vous. Ouais, bof, quoi, voilà. Ok, so what?
Et
Mais
c'est
c'est vrai que. Ils ont rattrapé le coup en détaillant un peu plus ce qu'il allait y avoir dans Convergence. Donc plus je l'attends
ouais, et
plus au
je trouve que c'est
niveau
quand même un
des
petit
conséquences que ça va avoir.
ouais, et je
Excuse-moi,
trouve
je
quand même
terminais
que
la
c'est
phrase.
ça montre quand même le bah la qu'au niveau d'une des New 52, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que voilà, ils vont faire un gros event qui va revenir un peu et jouer sur la fibre nostalgique, nous représenter tout ce qui s'est passé avant, et pour moi c'est un constat d'échec d'une partie des New 52, qui était censée être quelque chose qui reprend tout à zéro, qui nous amène des choses un peu fraîches et pour les nouveaux lecteurs. Bah là, ils ont dû perdre un certain nombre de fans, des choses comme ça. Ils essayent un petit peu de recoller les morceaux, et je trouve ça un peu trop rushé, et ça fait un peu gloubi-boulga, quoi. Et j'ai un peu peur de ça. Et pour moi, ça fait vraiment un constat d'échec pour les New 52, quand même, cet événement.
Autre chose perso que j'attends pour 2015, chose qui est tombée un petit peu à l'arrache ces derniers temps, le relaunch d'Archie, par Mark Waid notamment, mais le relaunch de cette série qui durait depuis 1942.
Ouais, ah, ça c'est vrai.
Archie qui a tenté énormément de choses en 2014 et
Ouais.
qui vraiment pousse le bouchon vachement loin en 2015, je trouve.
Ouais, Archie, vraiment, enfin, je crois n'avoir jamais lu un seul épisode de la série classique.
Ah, je suis
Je
comme
suis
toi.
tombé, amoureux de Afterlife with Archie, et donc effectivement, l'univers, je le trouve assez intéressant. Et voir Mark Waid et Fiona Staples débarquer au moins sur les trois premiers numéros, bah, c'est clair qu'ils ont déjà acquis un nouveau lecteur en ma personne, puisque j'irai clairement voir ça.
Ah ben moi le nom de Mark Waid m'attire, ça c'est clair et net. Je pense que je découvrirai cet univers au moment du relaunch. Voilà.
On en a déjà un petit peu parlé, donc je vais passer très vite dessus, hein, mais l'arrivée de Jeff Lemire, notamment sur l'univers Marvel, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pour 2015.
Ouais, bah tout
Vous
à fait,
aussi, hein,
ouais.
j'imagine.
Ouais, bah clairement, ouais.
Bah, quand on voit de quoi il est capable, on peut que attendre avec impatience ce qu'il va pouvoir faire sur chez Marvel. Il pourrait pas remplacer Bendis sur les X-Men? Non, juste un
Bah,
souhait comme ça.
le
Ah
truc
oui,
c'est
non, mais
que. Malheureusement, c'est pas annoncé ça.
Ouais, mais le truc c'est que le fait de le voir arriver chez Marvel, ça ouvre bah, plein de possibilités. Et effectivement, et là, il a mis le pied dans la porte. Et peut-être que en fonction du succès de Hawkeye et bah, de ses autres séries aussi, bah, Marvel va lui faire de plus en plus confiance. Et peut-être qu'on aura effectivement l'émir à la barre d'une des grosses licences de Marvel dans quelques temps. Et ça, j'avoue que c'est assez excitant, effectivement.
On a aussi la fin annoncée des Fantastic Four. Quel sera leur destin en 2015?
Ouais.
Un film de merde. Désolé.
Une
Non.
adaptation pourrie, mais peut-être un bon film. Ça, on sait pas. Mais c'est vrai que les Fantastic Four, ils en prennent plein la gueule dans une série pourtant qui est une des meilleures, je trouve, actuellement chez Marvel, avec un très bon taf de Robinson. Après, ils vont disparaître en tant que tels, mais ils ont l'air d'être clairement au cœur de Secret Wars, par exemple, avec le personnage de Reed Richards qui sera sans doute un des personnages clés de cette histoire. On sait qu'Hickman, c'est un perso qui kiffe et qu'il aime bien écrire. Donc, ils seront toujours là, mais ils s'appelleront pas les Fantastic Four. Ce sera
Est-ce qu'ils
différent.
vont pas repomper l'univers Ultimate et Reed Richards va devenir un méchant?
En fait, sur la couverture du premier numéro de Secret Wars, on a le Reed Richards de l'univers Ultimate et le Reed Richards de l'univers classique qui sont sur la couverture. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose à creuser du côté de cette histoire avec le Ultimate Reed Richards.
Justement, oui, moi, c'est vraiment le destin. Que va-t-il se passer pour eux exactement après la fin de leur série régulière? C'est ce genre de choses qui m'intéresse. Tu parlais de James Robinson. Quel sera le prochain projet de James Robinson
Ouais,
aussi?
ça j'attends ça avec impatience puisque
On sait que Fantastic Four s'arrête et All New Invaders
ouais,
aussi.
et il paraît qu'il a un autre projet a priori important chez Marvel. Pour l'instant c'est secret, mais je suis ça avec impatience parce que c'est vraiment Robinson, c'est le gars qui fait du super bon boulot et qui malheureusement est sur des séries qui marchent pas très très bien au niveau des ventes. Mais c'est passionnant à lire. Donc, il faisait déjà du très bon boulot chez DC. C'est aussi un exemple d'auteur qui est parti chez DC, même si c'était en 2013, qui est parti de DC pour aller chez Marvel. Mais voilà, curieux de savoir ce qu'il va faire après. Ouais.
Chez DC, j'en ai déjà parlé vaguement dans le wiki, donc je vais pas m'attarder dessus, mais j'aimerais un peu autre chose que du Batman. Alors oui, je sais, tout le monde va dire oui, mais tu tombes trop sur DC, Batman, etc. Mais honnêtement,
Tu veux autre chose
y
que
a...
du Snyder, tu veux dire,
voilà.
non?
Non, 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 autre chose que le Chevalier Noir. Je veux dire, il y a d'autres univers très intéressants chez DC, et on n'est pas obligé de sortir 15 nouvelles séries sur Batman, quoi.
C'est clair, je suis complètement de ton avis, parce que autant Batman c'est très bien, c'est très sympa à lire, quand c'est bien écrit, mais là franchement, il y en a la caisse. Mais il y a qu'à voir en France chez Urban, qu'est-ce qu'on sort principalement? Bah, du Batman. Quand tu vas en librairie, la plupart des tomes Urban que tu vois, c'est du Batman. C'est quand même une conséquence de l'emprise de ce personnage sur le marché, sur les séries qui sortent.
Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que avoir un peu moins de Batman serait cool, mais
C'est une licence vendeuse,
on
hein,
sait
je
que c'est ce
veux
qui
dire.
vend, ouais, c'est ça. Et des titres comme La Légion, il y a des rumeurs comme quoi elle reviendrait peut-être. C'est tellement, enfin, c'est pas suffisamment mainstream pour que ça fonctionne, quoi. Mais après, voilà, il faut que DC ait suffisamment les couilles pour sortir des séries peut-être qui fonctionnent moins bien, mais qui plairont aux fans, quoi. Ce qu'ils essayent de faire, hein, quand même, par intermittence et en tentant des choses, parfois en arrêtant des séries après 6 numéros, comme pour Clarion, même si la qualité est assez moyenne.
Ou Arkham
Ou
Manor.
Arkham Manor, qui est un titre Batman, mais qui avait une identité un petit peu différente, mine de rien, puisque
Oui,
c'était avec un
bonne
Batman
surprise.
infiltré. Donc
Bonne surprise, effectivement.
ça, c'était pas mal. Et voilà, c'est pour ça que le mois de juin, là, avec ces nouveaux titres qui seront sans doute annoncés, ça va être vraiment intéressant à voir, quoi.
On va aussi passer à autre chose dont on a déjà parlé, le cinéma évidemment, qui est une de nos grosses attentes de 2015.
Clairement, enfin, deux très gros films pour moi. Il y a le Star Wars 7 que j'attends le plus, et puis bah bien sûr le Avengers
Et puis
2.
Fifty
Bah oui, surtout, voilà, Fifty Shades of
Grey.
Grey, c'est sûr, j'attends ça, ouf. Non,
Pour
non,
moi, il y
mais
a déjà deux
le
jours de congé qui sont posés, hein, pour
exprès pour
l'Avengers
aller
2 et
voir,
l'autre pour Star Wars 16. Ah
Deux jours de suite pour aller voir Fifty Shades of Grey en boucle.
ouais. Faire le marathon Fifty Shades of Grey.
Fifty Shades of Sacha Grey, je préférerais, mais bon.
Oh, le mec!
Sinon, oui, Avengers 2 qui. Bah qui grâce à ses premiers trailers met quand même pas mal l'eau à la bouche et voilà qui va être un gros gros film du début d'année enfin du milieu d'année donc
C'est marrant parce que cette bande-annonce, j'en parle à un pote, il fait ouais, bof, ils vont pas raconter grand-chose. Je fais ouais, mais il y a une armure Hulkbuster dedans. Il fait ah ouais, c'est vrai, ça a de la gueule quand même.
Ouais, le Hulkbuster, et puis ben la enfin c'est pas encore la fin de la phase 2 puisqu'il y aura quand même encore Ant-Man, Mais c'est censé quand même nous amener sur pas mal de choses qui vont conduire à la phase 3, dont la fameuse Civil War, qui arrivera très rapidement après avec le Captain America 3. Donc on nous tease plein d'arrivées de nouveaux super-héros dans l'univers Marvel cinématographique, et ça, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup.
Malgré tout, on peut pas oublier DC.
Ah oui, non, il y a... Bah, malgré tout, on peut pas les oublier dans le sens où on sait qu'ils ont des choses prévues en 2016, mais 2015, ça va être un peu leur année pourrie, quoi.
Mais quand je dis qu'on peut pas oublier DC, justement, il y a quasiment rien en 2015 et ça risque. Enfin, ils ne vont pas vraiment occuper la place médiatique hormis à la télévision. Et est-ce que ça ne leur jouera pas des tours?
Bah,
C'est vrai que c'est un peu chaud. Il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose de bien au niveau de leur série pour amener les gens à aller au ciné, mais je sais pas si c'est le cas, je suis pas du tout leur série, les Green Arrow, les Flash et les Gotham.
bon, ils
Et
vont
Constantine.
ils vont
Et
voler
Constantine.
ils vont voler le show à la San Diego Comic Con. Je pense qu'ils vont enfin sortir un vrai trailer sur Batman Superman en juin. Et du coup, tout le monde parlera d'eux à ce moment-là, mais il faudra quand même encore attendre 9 mois pour voir le film. Mais là, il laisse clairement passer un peu la tempête avec Star Wars et Avengers, et pour pouvoir y aller à fond en 2016, quoi.
Bah, ils auraient tort pas faire une grosse annonce à la Comic Con, ou alors, allez, soyons fous, ils te balancent un trailer juste avant le Avengers 2.
Il y aura déjà
Au
celui de
moment
Star Wars,
des
donc
séances, tu sais. Non mais au moment des séances, genre tu vas au cinéma voir Avengers 2 et boum, t'as le trailer de Batman
de
Superman,
Batman
c'est déjà
Superman.
vu, hein.
Non, ce serait con parce que ça ferait des places en plus pour Avengers 2, quoi, parce qu'il y aurait des gens peut-être qui iraient juste pour voir le trailer. C'est peut-être pas une bonne stratégie, effectivement, mais...
Ouais,
On
ça se
attend
discute.
aussi. Pardon, excuse-moi, je te coupe.
Oui.
Mais on attend aussi de voir le destin de Sony en 2015.
Oui,
Ben
c'est
oui,
clair.
quelle sera leur les répercussions de ce gros problème. Une petite chose dont on n'a pas beaucoup parlé, ben on attend quand même Batman Arkham Origins.
Arkham Knight.
Arkham Knight, pardon.
Oui.
Je
Alors,
bloquais là, j'ai pas entendu parler
excusez-moi.
d'Arkham Origins, oui.
Mais ouais, on l'attend et en même temps on est un petit peu craintif. On espère que la recette sera pas juste repompée sur les précédents épisodes et qu'on aura quand même un petit peu d'originalité et que tout ne sera pas misé sur la Batmobile Tank, parce que pour le moment, jusqu'à présent, les bandes annonces qu'on a pu voir, c'est vraiment la Batmobile qui défonce tout avec des missiles.
Ah
Voilà.
ça, et puis les nouveaux takedowns, quoi.
Ouais, mais oui, on l'attend de pied ferme. De toute façon, au niveau des adaptations en jeux vidéo de films, enfin de comics, c'est quand même ce qui se fait de mieux actuellement. Donc,
Et peut-être qu'un jour, Rocksteady nous fera quelque chose dans l'univers de Superman, pour changer.
ouais, bah j'aurais bien aimé, ouais, effectivement, sur la Justice League ou sur Superman, mais voilà, il faut qu'ils concluent leur trilogie perso. Voilà.
Avez-vous encore d'autres attentes pour 2015 ou avons-nous fait le tour? En tout cas pour ce que l'on sait hein, depuis ce début d'année.
Bah là, on a fait un petit peu le tour sur les grosses annonces. J'avoue que j'attendais beaucoup de Jurassic World, mais j'ai été un peu refroidi par la bande-annonce qui, bien que sympathique, j'ai peur quand même du navet. Mais on aura
Ouais,
peut-être une bonne
ça pue
surprise.
le navet, hein.
On aura peut-être une bonne surprise, mais voilà. Après, c'est, enfin, 2016 pour moi, c'est l'année. Pardon, 2015 pour moi, c'est l'année Star Wars. Que ce soit en comics ou en film, c'est ce dont on va le plus parler. Que ce soit les ventes de comics Star Wars, que justement les produits dérivés Star Wars qui vont débarquer tout le long de l'année, et puis l'arrivée du film. Donc ça va être sur le bout de toutes les lèvres, Star Wars.
Bien, je crois que ça va conclure notre émission, à moins que tu aies un dernier petit mot, Corwin.
Pouet
Voilà. Donc, on a fait un peu
Que
le
la
tour.
force soit avec vous.
N'hésitez pas dans les commentaires à réagir aussi et à nous donner les choses qui vous ont marqué, les news qui vous ont marqué en 2014. On en a sûrement oublié. Comme je vous l'ai dit, on a un peu fait ça à l'arrache. Enfin, en tout cas pour ma part. Vous, je sais que vous avez bien bossé. Vous avez quand même recherché des news et tout. Moi, j'ai vraiment fait ça.
Bah ça fait
Voilà.
un petit panorama de l'année 2014, effectivement, c'est pas
bien sûr, vous aurez les Comic City Awards début janvier. Voilà.
Bah Bendis va tout rafler. Hein.
Qui reviendront sur les sélections comics hein, que l'on pourra faire. C'est pour ça qu'on s'est vraiment plus attardé sur le côté news et pour éviter de faire doublon avec les Comic City Awards. Et puis le début 2015, voilà, qu'est-ce que vous attendez pour 2015 au vu de ce qui a déjà été annoncé pour le moment? Bien sûr, nous reviendrons sur l'actu en 2015. Le retour du Weekly News est prévu pour le 7 janvier, voilà, le temps que je retrouve mon calendrier, prévu pour le mercredi 7 janvier, toujours en direct sur Synops Live, le mercredi à 21h, et puis en replay dès le lendemain sur le site ou sur synopslive.net, évidemment.
Et je rebondis...
En tout cas, merci. Oui, pardon, je t'en prie.
Avant que tu conclues, je rebondis sur les Comic City Awards. N'hésitez pas à aller voter sur le site.
Oui,
pour
oui, oui,
choisir
le prix public. Voilà.
Pour le prix public, tout à fait. Stéphane nous fait des questionnaires toutes les semaines, donc allez-y, allez mettre une pièce.
Et bien sûr, vous pouvez répondre à la totalité des questions tout au long, enfin jusqu'au Comic City Awards. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité qu'à la question de la semaine. Si vous n'avez pas répondu aux précédentes, vous pouvez toujours le faire. Et ce, jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'au Comic City Awards, en fait. Qui vraisemblablement se tiendront le 2 janvier. On vous informera évidemment sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, etc. Dès qu'on aura bien arrêté la date,
on est encore en train bourré du nouvel an. Ce sera parfait.
On essaie juste de se caler une date qui nous convienne au maximum, en tout cas. Ce sera sur Hangout, enfin, et donc disponible en direct sur YouTube. Voilà. Eh bien, merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette dernière émission de l'année. En tout cas pour nous, pas en ordre de diffusion, mais en tout cas pour moi, la dernière émission de l'année.
C'est touchant, c'est émouvant. Et puis,
c'était un vrai plaisir, comme à chaque fois.
Et on va en profiter puisque, a priori, le jour de diffusion, c'est Noël.
Il devrait être diffusé le 25.
Voilà, de souhaiter un joyeux Noël à tous nos auditeurs et de passer de très belles fêtes de fin d'année. Voilà.
Oui, très belle fête de fin d'année, très bon Noël. J'espère que le petit Papa Noël Comics aura été généreux avec vous, que vous avez plein de comics sous le sapin, que vous en avez offert plein aussi pour faire découvrir ce média fortement riche.
Et arrêtez d'en offrir à Benny, hein, il en a pas besoin.
Oui. Donnez-les nous à nous. Voilà.
On vous remercie en tout cas de votre fidélité et de votre nombre très croissant sur cette année 2014. Merci, merci, merci vraiment, ça nous touche beaucoup.
Ouais.
Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de plus en plus de monde chaque semaine qui nous écoute et qui nous découvre.
Voilà.
Et puis... Noyeux Joël et bonne année.
Ouais, joyeux Noël.
Et à très bientôt, rendez-vous en 2015.
Ciao, ciao.
Ciao.